Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
C'est un rendez-vous sur Radio de la Paix que vous connaissez bien. Economia, votre espace d'information sur les sujets économiques, vous est proposé encore une fois aujourd'hui. Nous nous intéresserons à la taxe sur la publicité instaurée dans la loi de finances de l'année 2025. Cette taxe de 3% concerne désormais le sponsoring ou le parrainage. On en parle avec Nico.soko. Elle est experte en fiscalité. Elle nous parlera de cette nouvelle disposition contenue dans l'annexe fiscale de cette année. Ça sera dans la rubrique un regard sur la gestion de l'économie. Avant cela, explication dans la rubrique lexique économique de certains termes. Et vers la fin de ce magazine, nous serons avec une jeune commerçante de Kunfao nommée Maman Catherine. Voilà pour le sommaire de ce numéro d'Economia. Bienvenue à tous.
Le lexique économique.
La taxe sur la publicité.
Selon l'article 421 du Code général des impôts, il est inclus désormais une taxe spéciale, dite taxe sur la publicité, au taux de 3%, et cela à la charge des régisseurs des messages publicitaires ou à défaut des personnes qui en assurent la diffusion, et quel qu'en soit donc le support et le mode de financement.
Le parrainage au sponsoring.
Le parrainage au sponsoring consiste pour une entreprise à soutenir financièrement un événement, une personne, un produit ou une organisation dans un but publicitaire, donc d'en tirer profit.
Le mécénat.
À la différence du parrainage ou du sponsoring, le mécénat, c'est lorsque l'entreprise fait un don à un organisme d'intérêt général sans attendre des contreparties équivalentes. Le mécénat est tout à fait le contraire donc d'une action de parrainage ou de sponsoring.
Regard sur la gestion économique nationale.
Annick Okopoin-Soko, bonjour.
Bonjour.
L'annexe fiscale cette année a décidé de s'intéresser à l'univers de la publicité. Et donc, dans ce domaine-là, il y a des innovations. Alors, quelle est l'innovation concernant la publicité en Côte d'Ivoire?
Alors, effectivement, l'innovation concerne l'article 421 du Code général des impôts qui prévoit une taxe sur la publicité à la charge des régisseurs des messages publicitaires ou à la charge de ceux qui diffusent de la publicité, quel que soit le support utilisé. Et donc, c'est une disposition qui existait hein, avant l'année fiscale 2025. Simplement, l'année fiscale 2025, en son article 5, vient étendre le champ d'application de cette taxe à tout ce qui est sponsoring. Bon, maintenant, ce qui change, c'est que si, par exemple, moi, cabinet Illy Conseil, je ne fais pas une publicité directe, mais je vais voir une entreprise ou un artiste, par exemple, qui organise un événement. Et je lui dis, je sponsorise ton événement, mais en contrepartie, tu passes des spots publicitaires, tu affiches mon logo lors de ton événement. Dans ce cadre-là, le montant que je vais donner à cet artiste ou à cette entreprise qui fait un événement, je dois rajouter donc, la taxe de 3%. Donc, on va me faire supporter dans le montant du sponsoring cette taxe de 3% parce que selon l'administration fiscale, quand je fais du sponsoring, je diffuse en même temps où l'entreprise qui bénéficie de mon sponsoring diffuse en même temps ma publicité. Donc, le fait que je puisse passer ce message publicitaire est taxé au même titre que si je faisais passer ce message publicitaire par un organe de presse ou par une maison donc, d'édition en ligne, etc. etc.
Donc, voilà. Désormais, le sponsoring aussi est considéré hein, comme de la publicité ou le parrainage également. Donc, tout cela est taxé.
Tout à fait. Dès lors qu'il y a un message publicitaire qui est diffusé en contrepartie. Parce qu'il faut faire la différence entre le mécénat et le fait de faire un don sans contrepartie et le sponsoring, qui est le fait de sponsoriser un événement, mais en contrepartie, on a notre publicité, on a nos logos, on a notre message publicitaire qui est diffusé à travers ce sponsoring-là. Donc, c'est ce sponsoring qui a en contrepartie une diffusion de message publicitaire qui est taxé aujourd'hui par l'article 5 de l'année fiscale 2025.
Vous, en tant que fiscaliste, pourquoi pourquoi l'État s'intéresse donc à cette niche-là du domaine publicitaire aujourd'hui?
Alors, si on lit l'exposé des motifs de ce texte, le but de l'extension de cette taxe, c'est de pouvoir financer l'agence en charge du soutien de la presse. Parce que cette agence, auparavant, un fonds de soutien de la presse, était transformée en établissement public national, en agence en charge du soutien de la presse. Et donc, cette agence, il faut bien qu'elle fonctionne. Et donc, justement, une quote-part, en tout cas, de cette taxe sur la publicité est allouée donc au fonctionnement de cette agence qui est censée faire des actions justement pour le soutien, le développement des médias, on va dire en gros.
C'est une taxe qui existait, comme vous l'avez fait noter, mais une taxe sur la publicité, c'est pourquoi ?
Alors, la publicité, c'est simplement hein, le fait de pouvoir diffuser un message pour pouvoir acquérir, par exemple, des parts de marché ou toucher un certain public ou des consommateurs. Donc, lorsqu'on fait une insertion publicitaire, ça peut être dans un magazine, on va dire physique, ça peut être une insertion publicitaire en quotidien, en ligne ou à la radio, voilà. Et donc, quand on fait cette insertion publicitaire, généralement, on passe par une régie publicitaire. C'est une régie, c'est des professionnels qui sont chargés d'identifier des organes de presse notamment, ou bien des organes de diffusion de publicité. Et ils vont utiliser ces organes de presse pour diffuser la publicité de leurs clients. Et donc, quand vous avez recours à une régie publicitaire, cette régie-là va vous facturer, bien entendu, ses honoraires hein, pour son activité de publicité. Et à cette occasion, justement, elle va vous facturer cette taxe sur la publicité qui sera après reversée à l'État. Et donc, cette taxe sur la publicité, elle fonctionne un peu comme la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, elle est supportée par celui qui va demander justement la publicité. Donc, je prends un exemple. Si moi, en tant qu'associé du cabinet du conseil, je veux passer une publicité sur vos antennes, donc l'agence publicitaire qui va me mettre en contact avec le service de gestion d'espace publicitaire, elle va me facturer donc ses honoraires plus la TVA, plus cette taxe sur la publicité qui est à un taux de 3%.
Ça, c'était donc, déjà dans toutes les annexes fiscales.
Exactement, dans le code général des impôts. Maintenant, ce qui change, c'est que si, par exemple, je ne fais pas une publicité directe, mais je vais voir une entreprise ou un artiste, par exemple, qui organise un événement, et je lui dis, je sponsorise ton événement, mais en contrepartie, tu passes des spots publicitaires, tu affiches mon logo lors de ton événement. Dans ce cadre-là, le montant que je vais donner à cet artiste ou à cette entreprise qui fait un événement, je dois rajouter donc la taxe de 3%. Donc, on va me faire supporter dans le montant du sponsoring cette taxe de 3% parce que selon l'administration fiscale, quand je fais du sponsoring, je diffuse en même temps ou l'entreprise qui bénéficie de mon sponsoring diffuse en même temps ma publicité. Donc, le fait que je puisse passer ce message publicitaire est taxé au même titre que si je faisais passer ce message publicitaire par un organe de presse ou par une maison donc d'édition en ligne, etc.
C'est vrai, chaque année, la loi de finances essaye de trouver encore d'autres ressources pour l'État. Mais est-ce que dans l'application, ce serait aussi facile la pratique donc, de cette nouvelle taxe?
Alors non, pas forcément, parce qu'on note hein, une difficulté d'autres pratiques. C'est que généralement, le sponsoring se fait à destination d'entités qui ne sont pas forcément régulièrement immatriculées auprès de l'administration fiscale. Donc je prends un exemple, un artiste qui fait un événement, bon, généralement, ils ne sont pas organisés sous forme de structure légalement constituée. Donc, cette entité ou cet artiste, par exemple, ne va pas délivrer de facture pour le sponsoring qu'il reçoit. Donc, en l'absence de facture, il va être difficile de pouvoir facturer donc, la taxe. Il n'y a même pas de facture pour soutenir le sponsoring qui est reçu. Et donc, en pratique, finalement, je pense que ce sont peut-être les entreprises qui sont légalement constituées et qui font du sponsoring. Ce sont ces entreprises-là qui seront amenées finalement à déclarer la taxe. Alors que dans le texte, on nous dit que c'est le sponsorisé, c'est celui qui diffuse la publicité par le sponsoring qui est censé déclarer la taxe. Donc, il y a cette difficulté d'autres pratiques qui va être forcément observée. Donc, on espère peut-être que l'administration fiscale, dans ses commentaires de l'année fiscale, va trouver une solution à cette difficulté d'autres pratiques. Et bien entendu, ça peut être aussi une taxe qui va peut-être freiner un peu aussi hein, les entreprises dans leur volonté de sponsoriser des événements, puisque ça va être une nouvelle charge en plus, donc au cœur de ce qui existe déjà.
Mais bon, on sait aussi que dans les actions de sponsoring ou de parrainage, il y a des structures à but non lucratif qui associent leur image à des activités. Est-ce que là aussi, il faut taxer pour taxer?
Alors, normalement, non, parce que le but de la taxe, à notre avis, hein, c'est de taxer, on va dire, de la publicité pure. Quand on dit publicité, c'est que en face, comme je l'ai dit en début de propos, on cherche à atteindre une cible, on cherche à acquérir des parts de marché. C'est donc ça. C'est un but commercial. Donc si on a une ONG qui est par définition à but non lucratif, qui fait du sponsoring, mais qui n'a pas en fait une activité commerciale, il n'y a pas de recherche de clientèle derrière, à notre avis, il n'y a pas lieu donc de collecter la taxe à ce moment-là. Donc pour nous, c'est vraiment taxer le message publicitaire, donc qui destiné à acquérir une clientèle.
Merci à vous, Annick Coupoin-Soko, pour ces éclairages.
Je vous en prie.
Merci beaucoup. Au revoir.
Itinéraire, le parcours de vie de notre invité.
Itinéraire découvre encore une fois une jeune dame. Nous sommes avec elle pour parler de son parcours. Bonjour madame.
Bonjour monsieur Zissé.
Vous appelez comment?
Je m'appelle maman Jacqueline.
Alors, maman Jacqueline, c'est le nom qu'on vous connaît, hein, bien sûr, ici à Kounfao. Aujourd'hui, maman Jacqueline, si on vous demandait de vous présenter, vous faites quoi comme activité?
Je suis une commerçante.
Alors, est-ce que vous êtes allée à l'école? Vous avez fait les bancs?
Non, je n'ai pas été à l'école. Même CPM, je n'ai pas fait.
Alors, vous n'êtes pas allée à l'école. Aujourd'hui, on vous voit commerçante. Ça nécessite que vous sachiez écrire, vous sachiez compter, vous puissiez vous déplacer. Alors, comment vous vous organisez pour pouvoir faire tout le point de tout ça?
Ce n'est pas difficile. En tout cas, dans la vie, là, si tu veux faire quelque chose, il faut avoir le courage. Parce que quand tu mets la paresse devant toi, tu ne peux pas faire ce que tu veux faire. Moi, d'abord, avant d'arriver à Kounfao ici, je me suis promenée dans beaucoup de coins. J'étais d'abord à Abidjan. Abidjan, comme je n'ai pas été à l'école, mon travail que je faisais là-bas, c'était travail de servante. Donc après ça, quand j'ai eu un peu d'argent, je suis venue à Kounfao. Quand je suis venue au début, je faisais un restaurant. J'ai fait mon restaurant 12 ans. À un certain moment, j'ai vu que ça ne l'a pas. Donc j'ai déposé. Donc j'ai pris un autre métier. Donc j'ai commencé sur les pagnes. Je prenais pour aller me promener dans les villages. Je marchais, faisais aller-retour 5 km. Donc aller-retour, ça fait 10 km pour aller me promener dans le village pour vendre les pagnes. Donc après ça, j'ai eu un peu d'argent. J'ai fait mon magasin. En tout cas, ça a commencé à aller. Voilà.
Vous citez ces étapes de la vie. Parlez-nous un peu de vos débuts. Vous êtes allée faire servante. Vous avez décidé de revenir à Kounfao. Quand vous veniez d'Abidjan à Kounfao, vous aviez combien pour faire le restaurant?
Je n'avais pas assez d'argent. Quand j'étais à Abidjan, je faisais travail de servante là. En tout cas, je n'avais pas assez d'argent, mais je voulais faire quelque chose de moi-même. Voilà. Au moins, je venais à Kounfao ici, j'avais que 40 000 francs. Ça avait 40 000 francs, j'ai pris pour venir commencer le restaurant.
Vous avez commencé le restaurant, pourquoi ça n'a pas marché?
Au début, ça marchait. Après ça, j'ai fait un enfant. Donc, de toute façon, je courais quand j'étais seule là. Avec l'enfant, je ne pouvais pas courir comme ça pour chercher la vienne. Partir dans les villas pour chercher vienne de brousse. Donc, avec l'enfant, je ne pouvais pas faire ça. Donc, j'ai déposé. Donc, j'ai eu un peu d'argent où je pouvais faire bonnes choses. Donc, j'ai commencé avec les pagnes.
Alors, vous payez les pagnes, vous avez commencé en vendant, vous étiez vendeuse ambulante, vous promenez de village en village et tout ça. Pourquoi cette idée de vous promener de village en village?
Parce que ici, au marché, là, puisqu'on est beaucoup ici, donc je vois que ça ne marchait pas trop. Ce que je voulais avoir là, je ne peux pas avoir. Donc, j'ai décidé de me promener dans les villages. Parce que quand tu arrives dans un village, tu es seul là-bas. Celui que tu vas trouver là-bas, il ne va plus se déplacer pour venir en ville. Donc, c'est comme ça que je me promenais dans les villages.
Et ça, vous avez fait pendant combien d'années avant que vous ouvriez votre magasin?
J'ai fait ça pendant 2 ans comme ça. Et puis après, au marché, ils vendaient au marché et puis je partais dans les villages. C'est après ça que j'ai fait le magasin. Même avec le magasin, mais je continuais d'aller dans les villages. Voilà, c'est après ça que j'ai arrêté. Mais aujourd'hui, là, avec le camion, les mototaxis, je vais toujours dans les villages. Je vais toujours vendre dans les villages.
Alors, vous parlez de camion, mototaxi, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez pu, avec le magasin, avec la vente, avoir donc un camion, des mototaxis. toujours pour aller vendre dans les villages.
Oui, pour aller vendre dans les villages. Parce que pour aller vendre dans les villages, tu ne peux pas marcher. Comme ce que je vends là, il y a un peu beaucoup. Je ne peux pas charger aussi pour aller vendre comme dans le temps je le faisais. Et maintenant, comme j'ai un peu de trucs pour vendre là, donc j'ai décidé de payer une voiture pour pouvoir rentrer dans les villages pour vendre. Après ça, j'ai payé moto-taxi pour pouvoir me déplacer aussi parce que j'ai des gens pour m'aider. Donc j'ai payé une voiture avec deux moto-taxis même pour pouvoir me promener. Je prends les gens aussi pour m'aider. Donc c'est comme ça que je fais.
Alors vous, c'est lorsqu'il y a des marchés dans les villages que vous allez donc dans ces villages là pour vendre vos articles. Qu'est-ce que vous vendez déjà?
C'est pas forcément qu'il y a le marché. Soit les jours, les femmes là ne vont pas au champ, soit les dimanches, on va dans les villages pour aller vendre. Parce que le jour là, ils sont là, ou bien il y a des jours même, ce n'est pas dimanche, on dit, ah, tel jour, on ne va pas au champ ici. Donc, on cherche le jour là pour aller vendre là-bas, là, tout le monde à la maison, pour que ça puisse marcher un peu.
Avec ça, nous sommes chez vous aujourd'hui, hein, avec votre commerce, vous avez payé une maison. Aujourd'hui, maman Catherine, quand vous regardez votre début, est-ce qu'on peut dire que vous avez pu atteindre votre objectif de faire quelque chose de vous-même, de réussir dedans?
Oui, parce qu'aujourd'hui, quand je regarde mon début et puis aujourd'hui, là, c'est pas la même chose. En tout cas, aujourd'hui, ce que moi-même j'ai fait, ce que je vois là, moi-même, ça me fait plaisir.
Alors, justement, j'aimerais qu'on revienne sur un point. Comment vous réussissez à contrôler tout ça? Vous avez un camion, vous avez deux mototaxis, vous avez votre magasin ici, vous avez beaucoup d'articles. Comment vous notez tout ça? Vous dites que vous n'êtes pas allé à l'école. Quel est votre petit secret?
Ah, mon secret là, ça est, je fais avec ma tête. Puisque je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Donc je fais ça avec ma tête. Voilà. Ça dit quand la traite approche comme ça, je m'assois, je réfléchis comment je peux faire la traite. Soit si c'est pour aller prendre les marchandises pour venir déposer, que ça soit beaucoup passé pendant la traite, il ne faut pas que je va me manquer.
Donc je... La traite agricole, hein, tu veux dire?
Oui, oui. Donc c'est comme ça.
Qu'est-ce que tu vends?
Ah, je vends beaucoup de choses. Je vends pain, je vends les marmites. Je vends les soupières, je vends kabakourou, sel, les barriques, les marchandises de Ghana, tout ça là, je vends.
Vous dites que vous travaillez avec votre tête hein, pour faire les calculs de tout ça, mais à quel moment vous savez que, ah bon, ça c'est mon bénéfice, ça c'est l'argent que j'ai mis dedans, voici ce que j'ai gagné, voici ce que peut-être je peux remettre dedans, voici ce que je peux peut-être prendre pour faire investissement, pour ne pas dépenser.
Quand je vois ce que je prends pour aller, pour aller prendre les marchandises. Si soit je suis parti avec 100 000 francs, et puis après, soit je me retrouve avec 120 000 francs, je me dis que soit c'est mon bénéfice, puisque je ne peux pas calculer ça avec soit la machine ou bien des trucs comme ça. Voilà, c'est ma tête, je prends pour faire tout. Mais ceux que je travaille avec eux, en tout cas, je ne vais pas prendre des gens d'ailleurs parce que je ne peux pas écrire tout pour calculer. Donc, je préfère travailler avec mes soeurs. Parce que eux, je sais qu'ils ne vont pas me voler, ils ne vont pas me faire. Donc, depuis même ça, ma petite soeur, j'ai commencé. C'est elle qui m'a aidé jusqu'à aujourd'hui. En tout cas.
Elle sait lire.
Elle aussi, elle ne sait pas lire. Elle ne sait pas lire. Donc, j'ai travaillé avec elle jusqu'à un certain moment. Moi, mais je lui ai donné pour elle-même. Elle dit, ah, voici ce que toi, tu dois vendre pour toi. Et on travaille toujours ensemble. Elle a pour elle, j'ai pour moi. Mais quand moi, je m'en vais quelque part pour aller vendre dans un village, je prends pour elle là aussi. Ou elle aussi, elle s'en va vendre. Elle prend pour moi là aussi. Donc, c'est comme ça que je travaille.
Alors, vous êtes une femme. Vous avez été jeune fille. Vous avez commencé par le travail de servante, ensuite la restauration. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous?
Ah, moi, ce que je vous conseille aux jeunes filles, de maintenant, en tout cas, moi, je voulais leur dire, faut pas, ils vont compter sur quelqu'un. Dans la vie d'aujourd'hui, il ne faut pas compter sur quelqu'un. Il faut compter sur toi-même. Même garçon qui est là, là, on est là, on dit, on compte sur garçon. Garçon, même, il cherche à compter sur quelqu'un. Donc, si tu comptes sur le garçon, et puis, il cherche à compter sur quelqu'un, donc, vous allez faire comment? Donc, il ne faut pas compter sur quelqu'un. Voilà, tu comptes sur toi-même. Tu dis, ah, moi, je vais avoir pour moi. Et puis, tu le fais. Avec le courage. Mais si tu mets la paresse devant, tu ne peux pas faire.
Alors, aujourd'hui, vous vendez tout ça. Est-ce que vous avez d'autres projets?
En tout cas, si je veux un autre projet, c'est pour agrandir le commerce. Je lutte toujours.
En tout cas, elle lutte toujours. Hein. Vous l'avez entendu, c'est une dame que nous avons décidé de vous présenter. Maman Catherine, comme elle se fait appeler, une jeune dame dynamique. Vous avez suivi son parcours, donc dans le cadre d'itinéraire. Merci à vous, Maman Catherine.
D'accord, merci à vous, Monsieur Zisse.
Amis auditeurs, on se retrouve avec beaucoup de plaisir à la découverte d'une autre personne. Allez, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Au revoir.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.